un bonjour tout particulier à Sonia. Et j'apprécie beaucoup, 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 je veux dire, ta générosité. Tu es là pour des raisons personnelles et puis tu dis, bon, voilà, je suis disponible, est-ce que je peux aider? Et franchement, j'apprécie, quoi. J'apprécie, Sonia est professionnelle, hein. Donc, quand quelqu'un est en vacances et puis en plus fait profiter ses dons, c'est magnifique. Donc, alors, mais bon, on aura certainement l'occasion de se voir. Hein. On verra combien de temps quel moment tu as disponible. Pasteur Marc, moi, je croyais que tu étais en vacances, à vrai dire.
Mais je le suis, moi aussi, sur votre côté. Je viens avec vous.
Ben merci en tout cas. Merci en tout cas. Alors, à propos de vacances, figurez-vous que je fais le lien avec cela parce que beaucoup sont en vacances, beaucoup vont aller en vacances. On a des familles, des enfants au milieu de nous. Et cette semaine, l'Église a reçu un appel de la part d'une famille qui était en vacances. Le papa est roumain et la maman est américaine. Ils vivent en Roumanie et ils étaient en vacances avec les parents du monsieur. Donc c'est un jeune couple et les grands-parents qui ont une maison secondaire à Grasse. Et on a reçu un appel parce que la maman étant protestante, le monsieur orthodoxe, roumain hein, et orthodoxe, ils avaient besoin de la visite d'un pasteur urgente mardi dernier. Ils en ont eu besoin parce qu'il y a un événement qui les a, une tragédie qui les a frappés. Et ils étaient à l'étranger. Et qu'est-ce que l'on fait quand il y a une tragédie ? Et que l'on a la foi, ben on a envie d'avoir un homme de Dieu, une femme de Dieu à nos côtés. Alors, évidemment que quand Christelle en a entendu parler, tout de suite, elle m'a demandé, « Pasteur, est-ce que tu peux te déplacer ?» Et j'ai dit, « Mais bien sûr, on va aider cette famille-là. » Il se trouve, alors, je vous raconte cela, mais pas simplement pour vous dire ce qui se passe, parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui sont en vacances, qui ont besoin d'aide, qui fassent appel à un pasteur, mais il y a quelque chose de précis. Et vraiment, que ce soit une mise en garde pour toutes les familles qui ont de très, très jeunes enfants. Très jeunes enfants. Nous sommes en période d'été, et il y a la mer, il y a la piscine, et tout le monde a envie de décrocher. Et de s'accorder un petit peu de temps libre, de joie de vivre, etc. Et gloire à Dieu, c'est fait pour cela. Mais il se trouve que ce couple-là était venu avec leur petite fille de 3 ans. Et la petite fille de 3 ans était avec les grands-parents. Et la petite fille s'est noyée dans la piscine. Elle a échappé à la vigilance. Et je dois dire que quand donc je me suis rendue à la tannée et puis qu'est-ce que vous voulez, vous arrivez dans un salon et puis vous voyez le corps d'un enfant de 3 ans avec un jeune couple. Alors la maman est enceinte, elle va accoucher dans 15 jours d'un petit garçon et ça heureusement parce que ça va aider cette famille à faire une transition et heureusement que c'est un petit garçon et pas une petite fille. Mais cette douleur-là, alors pourquoi est-ce que je parle de cela? Parce que, parents, alors, je sais que tout le monde fait son mieux, bien sûr, mais on n'est jamais trop vigilant. J'enchaîne avec j'ai reçu ma famille le mois dernier, en juin, et puis notamment, il y avait ce petit garçon de 3 ans, mon petit neveu qui est venu et c'est un vrai petit garçon. Bon, la piscine à la maison est protégée et en plus il faut savoir que son père est pompier, son oncle est pompier et mon frère est pompier, officier instructeur. Ce qui veut dire que Vous imaginez qu'à la maison, eh bien, l'attention, la sécurité est quelque chose avec laquelle on ne plaisante pas. Et donc, mon petit neveu, Jules, avait demandé à son papa d'aller réparer quelque chose. Et tous les deux sont descendus à côté de, au niveau de la piscine, qui à nouveau est protégée. Et puis, donc il n'était pas question de se baigner, parce que s'il est question de se baigner, immédiatement, il est chaussé de brassard, et il a la bouée, il y a toujours un adulte, il n'y a pas de problème. Là, c'était juste, Jules avait demandé à son papa Kevin de réparer quelque chose. Et la piscine est juste à côté de la cuisine d'été. Je veux dire, c'est combien 4 mètres, la cuisine d'été. Le papa est allé dans la cuisine d'été, il a commencé à réparer, et je ne connais pas ce détail, mais son attention a été attirée soudainement vers la piscine. Et il a vu son petit Jules remonter à la surface. 3 ans. Et quel âge il a ? 2 ans peut-être, hein ? Je ne sais plus quel âge il a. Ce qui veut dire que l'enfant avait sauté dans la piscine, pas du tout préparé pour la baignade, il est allé jusqu'au fond, il a fait quelques pas au fond et il est remonté. Alors, heureusement que l'enfant était au niveau des marches, c'est-à-dire là où il y a le moins de profondeur, mais quand même c'est trop profond pour un enfant de cet âge-là. Heureusement qu'il n'était pas de l'autre côté, à l'opposé de la piscine, parce que voilà. Mais pour vous dire que malgré ces précautions, malgré le professionnalisme dont l'enfant est entouré, eh bien, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que je peux dire, c'est la grâce de Dieu. Je me souviens qu'avant que la famille descende, eh bien, mon frère m'avait dit, il me dit, mais Marie-Hélène, est-ce que ta piscine est protégée, etc. J'ai dit oui. Il y a la sécurité là-bas. L'enfant de lui-même ne peut pas aller à la piscine. Or là, il y était avec son père. Alors, ces deux événements-là, dont un malheureusement tragique, m'ont amené. Je pensais, alors évidemment, je pense aux enfants que je connais, et ben, je pense notamment aux enfants de l'Église, hein, que je connais, aux enfants de ma famille. Et je me dis, on ne peut pas laisser un enfant s'approcher d'une piscine sans que les yeux des parents ne restent attachés à l'enfant. Juste ne pas quitter du regard, dès qu'un enfant arrive près d'une piscine, quelle que soit la raison, eh bien, en Bretagne, la première des choses que l'on apprend presque avant de dire « papa », c'est à nager. Voilà, un enfant... Dès qu'il sait respirer, pratiquement. Bon, là, le petit Jules est en train d'apprendre à nager, vous imaginez. Mais le truc, c'est qu'il est à 2 doigts de le savoir, mais il ne sait pas encore. Donc, parents, ne relâchez pas votre vigilance. Et moi, j'ai pris cela comme un avertissement. C'est aussi simple que cela. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Les circonstances, on n'en entend pas parler. Juste parce que, voilà, c'est ça, c'est la vie. Non, en plus, vraiment, cette année, eh bien, alors, je ne pense pas que ce soit moi uniquement qui le pense. J'en parlais avec Pasteur Marc, qui dit, oui, moi aussi, je trouve qu'il y en a beaucoup. On entend beaucoup parler des noyades. Je trouve que cette année, il y a eu plus de noyades. Et alors, moi, j'ai exercé mon autorité là-dessus et j'ai dit, stop maintenant. Néanmoins, eh bien, la vigilance doit être... On ne peut pas se relâcher sur cette vigilance. Et je me suis dit également... Bon, voilà, je vous partage avec vous ce qui s'est passé, notamment un des points qui s'est passé cette semaine, mais je me dis... Vous savez, c'est... Alors, les grands-parents, il y a des grands-parents qui sont roumains. Vous imaginez la douleur des grands-parents chez qui c'est arrivé ? Et ça va tellement vite parfois. Mais il y a ça, cette famille-là, ben, il va falloir qu'ils fassent des efforts pour rester soudés, pour ne pas entrer dans le jeu de l'accusation. Parce que si ça s'était arrivé dans notre famille alors que son père était à côté, c'est juste pas possible. Et ajouter l'accusation, l'ennemi de l'être humain, qui est le diable, eh bien, il ne veut pas juste tuer quelqu'un. Ce qu'il veut, c'est détruire tout autant que possible, par ricochet. Mais en tout cas, il y avait cette famille-là, donc les grands-parents, bah, ils étaient là, les grands-parents roumains. Et puis, les grands-parents sont venus des États-Unis. Et c'était des grands-parents qui font partie d'une église protestante. Mais je ne sais pas à quel point ils ont les fondements, la parole en eux, pour X raisons, peu importe. Mais en tout cas, quand j'ai pu leur apporter la parole, rediriger, parce que cet enfant est au ciel. Cet enfant est au ciel. Donc, quand j'ai redirigé la famille vers le ciel et que je les ai invités à puiser du Seigneur tout ce dont ils ont besoin, leurs besoins ont changé, leur vie a changé, j'ai vu l'impact de la parole dans leur cœur. Et chers amis, je peux vous dire que la différence quand une tragédie arrive, c'est la parole. Ou on l'a, ou on ne l'a pas. Mais c'est pas juste à moitié. Alors, moi, je vous encourage. Hein, eh bien, faites tout votre possible pour entendre la parole, pour connaître la sagesse de Dieu, pour connaître le plan de Dieu, les pensées de Dieu. Et si une tragédie frappe, eh bien, on remonte comme un bouchon de liège. Et on surmonte la mort. La mort a plusieurs formes. Mais on l'a chanté tout à l'heure, Jésus a vaincu la mort. Il n'y a pas que la mort physique avec la résurrection que nous connaîtrons un jour. Mais la division qui vient dans une famille, ça c'est une forme de mort. L'accusation, ça c'est une forme de mort. La dépression, la désespérance, ça c'est une forme de mort. Alors, moi, j'ai béni Dieu pour cette parole. Je me suis dit, Seigneur, ce que je connais là, mais quel privilège de pouvoir l'apporter à des gens qui souffrent. Voilà, il y a ce que l'on reçoit pour nous, et il y a ce que l'on reçoit pour les autres. Mais la parole, elle est inégalable. Inégalable. La parole dans la maladie, la parole dans le manque, la parole dans la confusion, la parole dans le péché, la parole est inégalable. Nous sommes bénis d'avoir accès à ce livre-là. Nous sommes juste bénis. Voilà. Alors, ça, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous propose d'entendre le message. Alors, désolé parce que je ne vous ai pas envoyé les versets, mais tu peux déjà trouver Marc 11, 22, 24. J'ai cette série-là sur la foi que j'ai commencé il y a pas mal de temps et je vais la continuer aujourd'hui. Et je dois dire que je vais la continuer aussi longtemps que le Saint-Esprit me la met à cœur. Parce que l'idée pour un pasteur n'est pas d'apporter un message, mais de permettre au souverain berger de nourrir son peuple. Et il va le faire notamment à travers ce qui se dit derrière la pupitre. Florence, tu partageais avec moi un témoignage, tu disais que cette série sur la foi, là, est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet ?
Merci. Donc, nous, on passe par une épreuve avec mon mari. Moi, je ne peux pas tellement parler. Je ne sais pas. Non. Donc, voilà. Mais enfin, en tous les cas, voilà. En tous les cas, justement, les cours sur la foi sont tombés à pic. Même si on a enseigné depuis longtemps dans cette église et que du coup on a appris aussi sur l'amour du Seigneur pour nous, On avait déjà aussi appris sur l'importance de la parole. Et donc, là, ces derniers temps, on a eu les cours sur la foi qui nous ont bien aidés. Ouais, les messages. Et donc, en fait, nous, on fait l'expérience en ce moment de s'attacher vraiment à la parole. Et en fait, c'est ça qui nous sauve. Parce que l'expérience que l'on vit dans le quotidien, là, en ce moment, est vraiment une épreuve assez difficile. Et peut-être ça pourrait aussi, je veux dire, intervenir sur notre famille, en tous les cas, le bien-être de notre famille et notre entente. Et puis plein d'autres choses. Mais en fait, nous, on fait vraiment l'expérience de s'attacher donc à cette parole. Le Seigneur nous donne des paroles vraiment, mais qui tombent vraiment à pic sur la situation dans laquelle on est et pour laquelle, en fait, on a vraiment besoin de cette parole, de s'y attacher. Et en fait, on fait cette expérience de s'attacher à cette parole, de garder les yeux fixés sur Dieu, sur cette parole qui nous donne précisément pour notre propre expérience. Et j'ai remarqué qu'en fait, Dieu fait le travail, tout le reste du travail, en fait. C'est lui qui, grâce à cette parole, grâce aux yeux, à nos yeux, enfin, on fait le choix aussi, on a toujours un choix à faire, hein. Donc nous, on a fait ce choix de rester attaché à la parole, de garder les yeux fixés sur Dieu. Et du coup, il fait tout le reste du travail, c'est-à-dire qu'il garde vraiment notre cœur. On a cette paix qui surpasse toute intelligence, en fait, qui nous préserve, qui nous garde, et on continue notre vie normalement. Je veux dire, on ne parle jamais de cette épreuve dans laquelle on est. On laisse venir les choses, on a une confiance en Dieu qui augmente, et on se sent vraiment fort, quoi. Mais juste parce que, en fait, on n'a aucun travail à faire, juste à garder les yeux fixés sur Dieu et juste à proclamer, à confesser cette parole, à la relire quand on se sent faiblir. Parce que, bon, je veux dire, il ne faut pas non plus négliger ça, parce que quelquefois c'est un petit peu difficile, mais il suffit juste de se rediriger vers la parole et ça y est, on est vraiment stable, quoi. On a l'impression qu'on ne peut pas faillir.
Gloire à Dieu! Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de voir le fruit de ces messages-là sur la foi? Non? Bon. Marc, oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux dire quelque chose à ce sujet-là ou quoi?
L'argent rentre.
Ah ben voilà. Ça sert à ça, hein? Ça sert à ça, à voir des situations se débloquer. Alors, quand Dieu a créé la terre... Il a créé un jardin d'Éden. Il a créé le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden était extrêmement pourvu. Il ne manquait rien. C'était, plus qu'il ne manquait rien, c'était l'abondance. Dans ce jardin d'Éden, Dieu a choisi, sur terre, hein, c'était un endroit bien délimité, et dans ce jardin d'Éden, Dieu a placé l'être humain comme des parents placent un nouveau-né dans leur chambre, dans sa chambre qu'ils ont préparée, qu'ils ont garnie. Le bébé, en général, arrive dans cette chambre et il a beaucoup plus de vêtements qu'il n'en a besoin. Ce bébé a déjà un lit qui est tout prêt, il y a des rideaux qui sont tout prêts, la chambre a été peinte. Quand Dieu a mis l'être humain dans le jardin d'Éden, l'être humain avait plus de nourriture qu'il ne pouvait en avoir besoin. Il avait des choses qui étaient magnifiques à voir. Il avait une mission qui était d'étendre ce jardin d'Éden sur la terre. Et plus que tout, eh bien, tout comme les parents sont et vont dans la chambre de l'enfant, Dieu était dans ce jardin d'Éden et il se manifestait. Le plus beau de tout, c'est que l'être humain, l'homme et la femme, par rapport à la race animale, il y avait des animaux. Tout comme les enfants ont leur nounours, ils ont leur doudou. Peut-être qu'il y a un petit chat qui va rentrer, il y aura peut-être à un moment, il y aura un oiseau, que sais-je. Hein. Mais en tout cas, il y avait des tas d'animaux. L'homme n'est pas un animal. L'homme est quelqu'un qui porte de toutes les créatures... Il porte l'image de Dieu. Amen. Je vais choquer, mais cela veut dire que nous sommes appelés, en tant qu'enfants de Dieu, à vivre comme Dieu. Amen. Donc, le Dieu le Père marchait dans ce jardin, parlait avec l'être humain, et l'être humain avait la conscience de Dieu. C'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est avoir la conscience de Dieu. C'est qu'on le voit ou pas, quand on a la conscience de Dieu, on sait que cette personne est là et on lui parle. Il se trouve que l'être humain est un être humain qui a été créé avec un libre arbitre. Et quand l'être humain a voulu exercer son libre arbitre sans réfléchir, eh bien, il a péché. C'est-à-dire qu'il a choisi de vivre sa vie indépendamment d'avec Dieu. Et parce que Dieu n'est pas un gourou, il a laissé l'être humain responsable de son choix. Mais cela veut dire qu'il a laissé l'être humain se débrouiller sur terre sans Dieu. Ce que l'être humain ne savait pas, c'est que en refusant l'union avec Dieu, eh bien, un maître dur, injuste, allait tirer profit de l'être humain et le dominer. Et celui-là s'appelle le diable. Donc aujourd'hui, toutes les injustices que l'on voit sur terre, eh bien, c'est le résultat de la vie sans Dieu. Voilà. Quand l'être humain veut diriger la terre, voilà ce que l'on obtient. On obtient le chaos, on obtient la confusion. Un jour, tu manges du gluten, le lendemain, tu n'en manges plus. Et demain, on va te dire c'était bon pour toi, parce qu'à vrai dire, c'est bon. Sauf pour ceux qui, exceptionnellement, font des allergies. Mais il y en a très peu, à vrai dire. Un jour, on dit, eh bien, il faut que tu corriges tes enfants, une fessée, hein, avec une cuillère en bois. Le lendemain, on dit, ah non, psychologiquement, tu vas le détraquer, cet enfant. En plus, il ne faut pas être les parents, il faut être les copains des enfants. Aïe, 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 aïe. Alors, dans tout ce chaos, de chaos en chaos en chaos, en désordre et en désordre, aujourd'hui, la Terre, elle fonctionne mal. Jésus est venu il y a 2000 ans. Il est venu pour retirer la nature de péché que nous avions pour nous permettre de recevoir la vie de Dieu à nouveau en nous, pour nous ramener la conscience de Dieu, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, la conscience de Dieu. Ah, c'est extraordinaire, la conscience de Dieu. Et le mieux, c'est que la conscience de Dieu, elle ne nous quitte pas. Quand on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on retrouve cette conscience de Dieu qui fait qu'on dit... Je le vois, je le vois pas, Dieu n'est pas loin. C'est juste, Dieu n'est pas loin, il est là. Je lui parle dans ma voiture, je lui parle quand je cuisine. Je lui pose des questions quand je suis au travail et que j'ai besoin de sa sagesse. Je lui en parle, je lui parle de mes enfants quand j'ai besoin de savoir dans quelle école les amener, etc. Je retrouve la conscience de Dieu parce que j'ai été pardonné de mes péchés. Donc, Jésus est venu pour nous restaurer à la position initiale qui est celle d'un être humain connecté avec Dieu, dans la provision de Dieu, et qui vit l'idéal de Dieu. L'idéal de Dieu va arriver dans le futur à un niveau global. En attendant, l'idéal de Dieu peut se réaliser dans la vie de chaque être humain qui reçoit le Seigneur Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'apprendre à vivre comme un enfant de Dieu dans l'idéal de Dieu, c'est-à-dire sans manque, sans maladie, même s'il y en a. C'est parce que avant, quand il y avait Adam, au départ, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas la présence du péché, il n'y avait pas la présence de la dépression, il n'y avait pas la présence du manque. Il n'y avait rien de tout ça. Et l'être humain devait grandir dans cet état-là. Le péché est venu. Et aujourd'hui, tous ceux qui acceptent d'être reconnectés avec Dieu par le sacrifice de Jésus revivent dans cet idéal, c'est-à-dire nous devons réapprendre à vivre. Avant, nous vivions sans Dieu, nous avions été éduqués à vivre sans Dieu, à se débrouiller seuls, Et qu'est-ce que l'on fait quand on vit sans Dieu et qu'on se débrouille seul? On joue des coudes, on fait des choses injustes, on réfléchit mal, c'est la loi du plus fort, c'est l'inégalité, c'est la pauvreté, l'extra-richesse de l'autre, etc. Et nous, nous avons donné notre vie au Seigneur et nous devons réapprendre à vivre. Alors, la foi là-dedans, c'est quoi? Apprendre à faire confiance que toutes les promesses qu'il nous a données, eh bien, nous savons les recevoir. Et tout à l'heure, quand on disait, qu'on chantait que nous sommes glorifiés, Jésus est glorifié quand son nom est élevé, c'est vrai, dans notre vie, quand nous pouvons dire « Jésus a fait cela dans notre vie, dans ma vie », eh bien, son nom est glorifié, son nom est élevé. Donc, il est nécessaire que nous apprenions comment vivait Adam. On peut dire « Oh là là, c'est loin, c'est loin ». Alors, qu'est-ce que l'on fait? On tourne vers les yeux vers Jésus et on regarde comment Jésus, qui a marché avec Dieu en tant que simple homme sur terre, a vécu. Tiens, ton voisin, réveille-toi parce que tu as quelque chose à apprendre. Mais vous réalisez ou je suis là seulement, je suis épatée par le plan de Dieu pour l'être humain. Mais la question est, Dieu ne peut pas forcer ce plan sur nous. Dieu ne peut pas forcer ses bénédictions sur nous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui s'accommodent avec le manque. Il y a des gens qui supportent la maladie. Il y a des gens qui ont appris à vivre avec l'amertume. Mais quand on dit, regarde un petit peu tout ce que Dieu a pour moi, et que l'on regarde notre vie, on dit, mais je vis comment, moi? Je vis. Comment ai-je accepté de vivre? Or, maintenant que je suis uni à Christ et que j'ai la vie de Dieu en moi, pourquoi accepterais-je de vivre en dessous de ses moyens? Je répète. Pourquoi accepterais-je de vivre en dessous de ses moyens? Ce n'est pas en dessous de mes moyens. Qui a dit que nous devions vivre avec à la hauteur de nos moyens? Ben ceux qui vivent sans Dieu. Eux, ils vivent à la hauteur de leurs moyens. Les croyants vivent à la hauteur des moyens de Dieu. Amen. Ben oui, mais d'un côté, il faut savoir quels sont les moyens de Dieu. Et puis de l'autre, ben, faut un petit peu savoir recevoir ses provisions. D'un côté, vous avez la grâce. Ça a la grâce à voir avec le fait que Dieu est l'initiateur de la réconciliation qui a pris place entre lui et les hommes. Ça a à voir avec le fait qu'il est l'initiateur et que ce que Dieu donne, il le donne gratuitement. Ben, mais il ne s'agit pas de savoir que Dieu a des choses merveilleuses pour nous et qu'en plus c'est lui, c'est son idée. Dieu a pensé nous donner des tas de provisions. Il a pensé un style de vie sur terre. Il ne suffit pas de le savoir. Encore faut-il savoir quoi? Qu'est-ce que tu as à me donner? Alors, on va passer toute notre vie à chercher ce que Dieu a à nous donner. Je vous assure, hein, si vous êtes né de nouveau, moi je suis né de nouveau depuis 81, donc ça fait combien de temps ça? 37? 37 ans. Ça fait 37 ans. Certains, ils n'étaient même pas nés. Hein. Certains étaient nés, mais ils sont nés nouveau après moi. Donc, depuis 37 ans, je suis en train de chercher et de découvrir qui est Dieu et ce qu'il a pour moi. depuis 37 ans. Quand je vais quitter cette terre pour aller dans la gloire, je mettrai toute l'éternité à découvrir qui est Dieu et ce qu'il a pour moi. Vous savez pourquoi on vient à l'église maintenant ? Alors, l'idée, c'est de savoir, un, qu'est-ce que Dieu a pour nous, et de deux, savoir, mais comment vais-je recevoir ce que Dieu a pour moi ? Parce que quand même, j'ai la conscience de Dieu, mais Dieu est invisible. Ben, c'est là que la confiance en Dieu intervient, ça s'appelle la foi. L'assurance que ce qu'il a promis, il le fait. Vous avez trouvé Marc, chapitre 11. Alors, Jésus est en train de donner une leçon sur l'utilisation de la foi. Si vous allez sur le site web de l'Église, elbn.org, vous pouvez reprendre tous les messages que j'ai prêchés sur la foi. Et notamment, vous en verrez un qui explique que nous avons la qualité de foi de Dieu. Donc la foi, ce n'est pas quelque chose que l'on a à inventer, c'est quelque chose que l'on a à libérer. Je libère la foi de Dieu qui est en moi. Et Jésus va dire plusieurs choses au sujet de la foi et j'aimerais mettre l'accent notamment sur quelque chose. C'est OK avec vous ou on rentre à la maison ? Jésus dit « Ayez foi en Dieu ». Et je vous ai déjà expliqué que le grec, à vrai dire, dit ayez la foi de Dieu », non pas « chercher à la voir », mais dans le sens « c'est cette foi-là dont il faut se servir ». Je ne reprends pas les autres messages, je suis tentée, mais je ne le ferai pas. Donc verset 23. « En vérité, je vous le déclare, si quelqu'un, ça veut dire n'importe qui, hein, on est d'accord. C'est-à-dire, qui ça peut être quelqu'un ? Deux personnes. Qui ? Ça peut être quelqu'un. Qui ? Si quelqu'un dit « Ah ah !» apparemment, il est question de parler. Il est question de quelque chose qui doit sortir de la bouche. Si quelqu'un dit à cette montagne... Ou si quelqu'un dit à ce problème, « ôte-toi de là, manque, maladie, amertume, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » La Bible dit, « si celui qui le dit ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. » C'est pourquoi je vous déclare, dit Jésus, « tout. » Ce que vous demanderez en priant. La prière a à voir avec le fait de parler à Dieu. C'est ça la prière, c'est communiquer avec Dieu. Croyez que vous l'avez reçu. Donc quand vous priez, quand vous demandez à Dieu quelque chose qui est conforme à sa volonté, c'est là, dans la prière, que vous croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Cette mesure de foi, là, quand on y pense, c'est assez exceptionnel. La Bible nous dit que nous avons en nous la foi de Dieu. Non, mais ce n'est pas rien. Dernièrement, il y a eu une éclipse. Je n'ai pas tout regardé. Tristan m'a regardé, qu'il disait qu'il a regardé de A à Z. Bravo, hein. J'aurais dû faire la même chose, à vrai dire. Mais quand vous regardez le ciel, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, c'est quand même extraordinaire. Mais vous réalisez que c'est cette foi-là, c'est ma foi qui l'a créée. Tu dis, c'est pas toi qui l'a créée. Non, mais c'est ma foi, j'ai la foi de Dieu. Vous avez quelle foi, vous ? Donc c'est ta foi qui a créé. La Bible nous dit que l'univers a été créé par la parole de Dieu. Dieu a parlé que la lumière soit, à vrai dire, lumière. Il a juste dit lumière. On est en train de se demander comment recevoir les bénédictions que Dieu nous a acquises en Jésus-Christ pour que nous puissions vivre à la hauteur de l'idéal de Dieu, même sur terre. Et non pas comme le monde veut vivre sans Dieu. On exerce notre foi. Mais pensons, qu'est-ce que peut produire cette foi? Est-ce que tu as déjà vu un papillon? C'est magnifique un papillon, non? Plus ou moins beau, mais franchement, il y en a des beaux. Hein? Mais vous avez vu ces couleurs? Ben, c'est ta foi qui a créé cela. Tu as déjà vu des fleurs? L'autre fois, je suis allée à la montagne. Et puis, avec d'autres, notamment c'est avec Fanny, on était en train de regarder toutes les différentes fleurs mauves qu'il y avait, de toutes sortes de formes, différentes sortes, différents degrés, différentes nuances de mauve. C'est ta foi qui a créé cela. Un enfant qui naît, c'est ta foi, ça. Alors, quand on pense à ce que cette foi que Dieu a mise en moi, sa foi qu'il a mise en moi, on se dit, mais attends, c'est nul. Je n'utilise pas cette foi-là. Il y en a qui sont en train de pleurer parce que leur frigo vient de lâcher et ils sont déprimés parce qu'ils se demandent comment ils vont le payer. Non, mais tu réalises ce que tu as en toi? Je veux dire que non seulement ne te contente pas d'avoir un frigo par la foi, mais je veux dire... ouais, remplis-le par la foi. Demande la couleur par la foi. Parle la forme, les dimensions par la foi. Appelle la marque par la foi. Je veux dire, fais quelque chose qui un peu reflète Dieu. Hein? Je ne sais pas, on peut peut-être penser autrement avec la foi qui est en nous, non? Au lieu de dire, allez, Père, dans le nom de Jésus, je sais que tu veux pouvoir mes besoins, je te demande un frigo. Et qu'est-ce que tu demandes? Rien de particulier. Donc, qu'est-ce que tu auras? Et si tu as un frigo après qui ne te plaît pas, tant pis pour toi. Ne t'en... Alors, je ne sais pas ce que c'est avec cette histoire de frigo. Allez, on va changer, on va parler peut-être, je ne sais pas moi, d'une voiture. Ou on va parler d'un travail. Ou on va parler de relations avec telle ou telle personne. Ce que je veux dire, c'est ne te contente pas de présenter une requête globale au Seigneur. La foi que tu as en toi te permet d'avoir exactement ce que tu veux. Quand Dieu a parlé à l'existence des papillons, eh ben, il n'a pas eu juste un papillon et que sera, sera. Il a parlé exactement ce qu'il voulait. Exactement ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, Jésus a dit « Demandez-moi ». Et non pas seulement « Je vous donnerai », l'idée c'est « Et je créerai pour vous ce qui n'existe pas ». Mais très souvent nous, la Bible dit « Tout ce que vous demandez ». Pour reprendre ce verset, le Seigneur dit, je vous le déclare, « Si quelqu'un croit que ce qu'il dit, ce qu'il dit ». Tout à l'heure, on a chanté ce chant et qui dit « Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois ». Quelqu'un qui dit « oui, je crois et je crois » n'est pas en train d'exercer sa foi. Bibliquement, certains ils sont en train d'atterrir là, d'autres sont en train de se cracher, d'autres sont en train de se dire « moi, je n'ai pas décollé, on est où là ? Elle parle de quoi ?» Hein ? Simplement dire « je crois », c'est pas la foi, ça. La foi, c'est... La foi parle exactement. La foi dit « par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri ». La foi dit « dans 2 jours, j'aurai exactement le travail que j'ai demandé et voilà le travail que j'ai demandé ». la foi dit, voilà, telle facture, je ne sais pas moi, tiens, mes vacances sont payées. Amen. Ben non, pas amen. Ça, le papillon, il n'a pas de couleur avec ça. Il est noir et blanc, ton papillon. Et voilà, voilà. Ça ne suffit pas de dire mes vacances sont payées. Est-ce que tu as fait le calcul de ce qu'allaient coûter tes vacances? Hein? Est-ce que tu as évalué ce qu'allait coûter peut-être ce gîte? Est-ce que tu as intégré les restaurants dedans? Ou tu comprends, nous on ne va pas au restaurant parce que... Écoute, tu as déjà un pied en dehors du jardin d'Éden. Mais Dieu t'a placé dans le jardin d'Éden. Il n'a pas l'intention, si tu envoies en vacances, il n'a pas l'intention que tu manges des pâtes toute la journée, même si tu vas en Italie. Gloire à Dieu pour les Italiens. Est-ce que tu as évalué le montant de tes vacances? Est-ce que tu as intégré? Et la foi n'est pas de dire « je crois que Dieu a pourvu à mes besoins, je crois que nous allons payer toutes les factures de nos vacances », ce n'est pas cela. C'est ou bien tu as pu budgéter tes vacances, ou alors eh bien, tu as fait le calcul de ce que c'est, je ne sais pas moi, une semaine, deux semaines, trois semaines, 4 semaines, et après ça s'appelle un rentier, donc t'es pas concerné. Non, attention. Tu as fait le calcul, et après, tu dis, Seigneur, je te remercie parce que c'est 6751 euros minimum, je veux pas limiter Dieu, dans le nom de Jésus, ils sont réglés. En général, on ne s'y prend pas la veille de partir en vacances pour exercer notre foi. Il est dit, s'il croit que ce qu'il dit arrivera. C'est exactement comme... un jour, j'étais au téléphone avec une amie et puis on était en train de parler. Et puis d'un coup, j'ai dit, écoute, excuse-moi, mais tiens, au fait, c'est peut-être quelque chose qui va aider certains. Si on vous téléphone et que vous avez un rendez-vous, vous savez que vous avez le droit de dire à la personne qui vous appelle, « Excuse-moi, mais je dois partir, on se rappelle plus tard. » En général, on se rappelle plus tard d'ailleurs, ça ne veut rien dire. Donc on dit ou bien « Je te rappelle plus tard » ou « Tu me rappelles plus tard ». Il y a des gens, vous savez, dès qu'on sent qu'ils sont nerveux au téléphone, ils ont déconnecté, ils ne sont plus là, et ils parlent, mais ils n'osent pas dire, tu sais, « Je dois partir ». Donc ça, la parenthèse est refermée. Mais, j'étais en train de parler, et puis tout à coup, je lui dis, tu sais, écoute, désolé, mais j'ai un rendez-vous, je dois partir. Et puis, je ne sais pas, j'ai dû parler de la place pour se garer, ou je ne sais pas quoi. Parce que là où je me rendais, certainement que le parking devait être limité. Et donc, je savais que je devais exercer ma foi. Et elle m'a, très souvent, avant, c'est arrivé... Au moment de me garer, je disais, allez, Seigneur, merci mon Dieu, parce que tu me donnes une place de parking. Bon, dans sa grâce, il l'a fait, mais on peut faire mieux. Elle m'a juste appris cette leçon. Elle m'a juste dit, écoute Marie-Hélène, ta place de parking, c'est pas quand tu es arrivée à l'heure où il faut te garer qu'il faut que tu la parles. C'est bien avant. Avant que, pendant que tu es en train de préparer pour ton rendez-vous, appelle cette place de parking à l'existence. Ouf, c'est beaucoup plus facile comme cela. La même chose avec les vacances. Ça n'est pas là, pendant qu'on est en train de faire les bagages, qu'on est en train d'exercer notre foi, c'est bien avant. C'est pas quand on arrive à la retraite qu'il est temps de parler ce que l'on veut vivre à la retraite, c'est bien avant. Tu dis, oui, mais moi je viens d'entendre la parole de Dieu seulement maintenant. Eh bien, la grâce de Dieu est là. Mais pour tous les autres, certains se disent, mais je me demande où le pasteur va avec son sermon. Je dois vous avouer que moi aussi. Moi aussi, je dois vous dire que je ne sais plus trop où je vais là, parce que là, je surfe. Je surfe. Mais bon, ceci dit, vous êtes en train de croire que Dieu vous parle aussi, non? Amen. D'accord, donc je ne suis pas la seule là-dedans. Non, parce qu'au départ, ça n'a rien, ce que je dis n'a rien à voir avec, à part le verset, ça n'a rien à voir avec ce que je veux dire ou ce que le Saint-Esprit essaie de vous dire. C'est que nous ne pouvons pas vivre comme des victimes sur terre, mais que nous devons apprendre à marcher avec Dieu. Amen. Apprendre à marcher avec Dieu, ça veut dire que nous avons notre part à faire. Notre part à faire est de chercher ce que Dieu veut pour nous et ensuite de croire que tandis que nous parlons ce que nous avons découvert qu'il veut nous donner, il va nous le donner. Parce qu'une chose est sûre, c'est que quand nous exerçons notre foi, nous n'avons pas à fabriquer la réponse. Et là, c'est là où très souvent nous perdons pied, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas demander quelque chose à Dieu parce qu'ils savent quelle est la réponse qu'ils ont besoin et ils se disent « je ne peux pas la réaliser, donc je ne peux pas demander ça ». Et là, on est en train d'inverser les rôles. Laisse Dieu être Dieu. Dieu ne nous demande pas de fabriquer une réponse parce que si on lui demande, c'est parce que justement, on ne peut pas le faire. Donc, on a besoin de dire « Seigneur, voilà, j'ai tel besoin dans ma vie, ne pas rester vague, considérer le genre de foi qui est en nous. » Et la Bible nous dit que nous avons la foi de Dieu en nous, prendre du recul par rapport à notre situation et de dire, mais franchement, qu'est-ce que cette foi-là a créé? Elle a créé l'univers entier. Et le Seigneur est en train de t'inviter à créer ton petit univers avec cette même foi. Et quand tu te rends compte comment fonctionne cette foi de Dieu, quels sont les principes qui gèrent cette foi-là, alors, à ce moment-là, tu peux devenir une bénédiction en utilisant ta foi pour les autres. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui utilise sa foi uniquement pour lui-même. Ça n'est pas ce que le Seigneur a voulu. Le Seigneur veut que nous soyons une bénédiction, mais il faut savoir comment ça marche. Si on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas. On ne peut pas, d'abord soi-même, on ne peut pas s'en sortir et on ne peut pas aider les autres. Mais la foi de Dieu qui est en nous, en méditant sur cette foi de Dieu-là, qui était en moi, je vous assure, ça m'a complètement reboosté pour le local que nous sommes en train de chercher. Et je vais vous dire, la Bible dit « Dieu ne ment pas ». Dieu ne ment pas. Peu importe ce que les autres ont, peu importe ce qu'ils n'ont pas, peu importe ce qui se passe à Nice, c'est une ville touristique, c'est pas une ville touristique, c'est une ville industrielle, c'est pas une ville industrielle, je n'en ai rien à faire parce que j'ai ce que je dis. C'est aussi simple que cela. À partir du moment où on a découvert ce que Dieu veut nous donner, on le parle et la Bible dit s'il croit que ce qu'il dit, Dieu a besoin de tes paroles. Vous vous rappelez quand Jésus a été appelé devant pour Lazare et il n'était pas devant la tombe de Lazare en train de dire je pense fort. Non, Dieu le Père a eu besoin de la parole qu'a prononcée Jésus. La question est, toi, que parles-tu sur ta vie? Que parles-tu sur ta vie? Encore une fois, tu peux chanter, oui je crois, c'est pas le bon ton, oui je crois, non, tout le monde sait que je suis pas une chanteuse, oui je crois, ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Les paroles, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois que Dieu a pour ta vie? Tu crois que tu vas toujours rester là où tu es, dans l'appartement, la maison où tu es? Mais ça ne suffit pas de dire « je crois que je ne resterai pas ». Ma question est « tu crois quoi ?» Tu crois quoi? Tant que tu n'as pas parlé ce que tu crois articulé avec la foi de Dieu qui est en toi et que tu n'as pas mis de la couleur à ces paroles, je peux te dire, l'année prochaine, je refais ce message, en sachant que je ne fais jamais deux fois le même, et tu seras toujours là où tu habites. Rien n'aura changé. La Bible dit... S'il croit que ce qu'il dit, pas simplement s'il croit que Dieu a pourvu à ses besoins, mais tu dois dire ce que tu crois que Dieu manifeste pour toi. Tu dois le dire, tu dois le dire. Ce qui fait que peu importe ce que les autres disent à ton sujet, même si ce que les autres disent à ton sujet est négatif, tant que toi, tu restes avec ce que Dieu dit et que tu le crois, tu auras. La Bible dit, tu l'auras. Tu l'auras. Tu l'auras. C'est-à-dire, le « tu l'auras » n'est qu'à... Il est dans ton souffle. Ton futur, il est dans ta bouche. C'est la parole qui crée. Tu sais, je suis en train de préparer des vacances. Je peux vous dire, non seulement j'ai demandé au Seigneur où il allait m'amener pour ce voyage exceptionnel, ça y est, c'est fait, il me l'a dit. Maintenant, je suis en train de demander, ça va être sous quelle forme, et je crois que je sais. Mais dès que je sais, dès que je connais les détails, je vous garantis, je les parle à l'existence. Et dès que le premier jour de mes vacances va commencer, la grâce de Dieu est celle qui va m'amener vers ma destination. Et tout sera couvert. Tout sera couvert. La météo sera parfaite. Je vais rencontrer les gens, les connexions que j'aurai parlé à l'existence. Tout ce que j'aurai parlé... Je l'aurai. Il y en a beaucoup qui partent en vacances avec un billet d'avion, un billet de train, au volant de leur voiture. Ils connaissent la destination, mais le quotidien, eh ben, ils vont se le fabriquer sur place. Ou ils vont se le farcir. Oh, excusez-moi. Bon, enfin, tout le monde l'a compris. Mais c'est ça. Par exemple, il y a la rentrée des enfants, là. Combien de chrétiens préparent la rentrée de leurs enfants, scolaires, au lycée, universitaires, peu importe, à la maternelle? Combien préparent cette rentrée avec leurs paroles? Bon, je ne vais embarrasser personne. Il y a une qui ose, moi je le fais. Ouais, ça me fait plaisir, ça. Alors que tout le monde sait que le mois de septembre, il arrive. La rentrée, elle est là. Mais qu'est-ce que l'on attend à parler la rentrée et l'année? Vous savez quel est notre problème? Parce qu'on vit au jour le jour. Dieu est celui qui utilise sa parole pour créer le futur, pour amener le futur dans le présent. C'est ainsi que tu prépares la rentrée de tes enfants, c'est ainsi que tu prépares ton nouveau travail, c'est ainsi que tu prépares le futur de ta famille, c'est ainsi que tu prépares tes derniers jours sur terre, c'est ainsi qu'on le prépare. En parlant. Au lieu d'arriver au moment donné et de dire, vite Seigneur, je te remercie parce que maintenant tu me donnes la sagesse. Merci mon Dieu, le jour de la rentrée. Merci Seigneur parce que tu es celui qui donne à mon enfant un maître ou une maîtresse, un instituteur, un prof avec qui il va avoir la faveur. Ben, c'est un peu tard, le choix a été fait. Dieu veut que tu aies un pied dans ton futur. Et pour que tu aies un pied dans ton futur, Le Seigneur veut que tu apprécies ton présent. C'est pour cela que le Seigneur veut, qu'il veut pourvoir à tes besoins, de manière à ce que tu ne sois pas inquiété par ce qui se passe maintenant, mais que tu utilises ta foi pour, grâce au fait que tu as la conscience de Dieu, tu peux penser au futur. Vous savez, les gens qui sont dans le manque aujourd'hui et qui n'ont pas la conscience de Dieu ont des difficultés à penser à demain. Je peux vous dire, dans ces cas-là, ils ont des difficultés à penser à ce qu'il sera en septembre, ou même l'année prochaine, ou même dans 5 ans d'ici. La Bible nous dit que Dieu a créé l'univers par sa parole, et tu as la parole, et ça n'est pas pour rien. Ça n'est pas pour rien que Dieu a fait l'être humain un être parlant. C'est pas, vous savez, il y a ce passage, je termine avec ce verset là, hein, de Genèse 2, 7, quand Dieu a recréé l'univers, et il dit « Dieu insuffla à l'homme une âme de vie et l'homme devint un être vivant. » À vrai dire, la traduction araméenne, donc Elos, dit « Et l'homme devint un être parlant. » C'est-à-dire que tu peux parler ton futur à l'existence ou tu peux littéralement poser des limites à ta vie en parlant. Tes paroles peuvent poser des limites à ta vie. Continue à dire « j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais » et ça n'est pas difficile de savoir ce qui va se passer. Tu n'y arriveras pas. Parce que nous avons été faits à l'image de Dieu, nous sommes un être parlant. Merci, une personne est contente. Alors, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et peut-être que certains sont en train de se dire, ben, wow, pasteur, là, pour l'instant, mes paroles... Heureusement que nous pouvons annuler des paroles grâce à d'autres paroles. Mais ça, personne ne peut le faire à votre place. Et heureusement. Bien. Mais écoutez, nous allons prendre la communion, le pain et le vin maintenant. Et nous allons nous rappeler que le pain et le vin représentent une alliance que Dieu a faite avec lui-même et dans laquelle il nous a invités.